Vous écoutez RTL.
Vous avez bien raison d'écouter RTL. L'horloge indique 15h03, l'heure de retrouver Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre.
Bonjour Alexandre de Saint-Aignan.
Bonjour.
Alexandre, à 16h, je vous rends l'antenne si vous en êtes d'accord pour un prochain point sur l'actu.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, merci. Allez, comment élève-t-on un enfant quand le père n'est pas là? Outé, papa outé, c'est tout de suite avec vous sur RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous en ce mercredi? Bienvenue sur RTL, bienvenue dans En effet pour s'entendre, bienvenue à tous ceux qui nous découvrent en ce mois de septembre, à l'instar de Greg Bédé, qui compte parmi les nouveaux membres de notre communauté Facebook. D'ailleurs, je vous invite vraiment à découvrir la page Facebook de cette émission. Vous pouvez également vous rendre sur Twitter et vous verrez que vous aurez l'occasion de faire connaissance avec votre prochain et beaucoup de choses à partager. Ici, chaque jour a sa couleur, chaque jour a son ton, sa conversation. Et si demain, nous allons nous intéresser au baiser, oui, le baiser qui craque, qui chante, le volé, le mouillé, le langoureux. Si demain donc nous allons nous embrasser, aujourd'hui nous allons nous intéresser à celles qui élèvent seules leur enfant. 20% des familles sont monoparentales en France et parmi elles, 85% sont des femmes. Et dans certains cas, le père est totalement absent de la vie de l'enfant. Alors à quoi ressemble la vie de ces mères solo sur tous les plans? Comment élever ses enfants sans la présence d'un père? De quelle façon faire exister la figure paternelle? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Christine Aron, bonjour. Soyez la bienvenue
bonjour,
sur RTL.
Merci.
Christine, vous êtes présidente et fondatrice de la Fondation Cas d'Urgence.
C'est Christine Kelly qui est présidente. Moi, je suis membre du conseil exécutif.
Très bien, donc voilà. Pardonnez-moi, donc on a confondu les deux Christine. Vous êtes donc membre du conseil exécutif de la Fondation Cas d'Urgence. De quoi s'agit-il?
Ben en fait, l'association Cas d'Urgence a pour but en fait d'aider les familles monoparentales, oui, notamment sur la garde d'enfants, parce que il est difficile aujourd'hui de trouver un emploi, d'avoir un emploi quand on peut pas faire garder son enfant. Donc la Fondation Cas d'Urgence, l'association Cas d'Urgence est surtout là pour donner un coup de pouce en fait aux familles qui en ont le plus besoin, que ce soit pour la formation, maintenant aussi pour le logement. Donc, c'est d'abord un premier combat. Ouais.
Voilà. Comment sont ces femmes qui se tournent vers l'association Cas d'Urgence? Elles sont souvent désespérées, rupture aussi avec leur famille.
Ce sont des femmes souvent désespérées, des cas qui sont, tous les cas sont différents. C'est vrai que des fois il y a des familles qui n'ont pas de, des femmes qui n'ont pas de famille autour d'elles, ou dans des familles déjà où les choses sont compliquées, il n'y a pas de modèle familial. Donc elles sont souvent désespérées, elles survivent en fait, elles cherchent à chaque fois à survivre, elles tapent à plusieurs portes et des fois les portes ne s'ouvrent pas facilement et c'est un long combat pour ces femmes au quotidien qui doivent survivre pour donner à manger à leurs enfants et puis les faire garder pour pouvoir trouver un emploi.
Alors voilà, ces enfants, on en parle également avec Myriam. Alors Myriam, pardonnez-moi. C'est toujours le vrai problème.
Myriam Ségère.
Oh ben voilà, c'est aussi simple que ça. Bonjour Myriam Ségère. Alors il faut préciser que votre nom magnifique hein, s'écrit S-Z-E-J-E-R. Et à chaque fois que je vous reçois, j'ai comme un petit blocage au moment où on arrive à votre nom. Donc je vous appelle Myriam, d'accord? Docteur Myriam, puisque vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et présidente de l'association La Cause des Bébés. Et puis un ouvrage que l'on peut retrouver aux éditions Bayard, c'est Si les bébés pouvaient parler. Si les bébés de famille monoparentales qui n'ont qu'une seule maman et pas de papa pouvaient parler, qu'est-ce qu'ils diraient?
Au début, pas grand-chose, parce qu'ils sont assez contents de ce qui se passe, puisqu'un bébé, à la naissance, il aspire qu'à une seule chose, c'est de retrouver ce qu'il connaît déjà. Or, ce qu'il connaît, c'est le corps de sa mère.
Oui.
Donc, le sein, le lait, l'odeur, la voix, la chaleur, toutes ces choses qu'il avait avant de naître, s'il les retrouve, il est content. Mais petit à petit, ce duo va se trouver un petit peu pauvre pour la société, qui exige quand même qu'on mette un petit peu d'ordre là-dedans et qu'il y ait du tiers, comme on dit. C'est-à-dire qu'il y a un troisième terme. C'est le rôle en général des pères. Mais ça peut être aussi le rôle de quelqu'un d'autre ou d'autres qui vont occuper cette place qui vient faire triangle entre la mère et l'enfant et qui va éviter que ce soit trop fusionnel, trop collé et qu'il n'y ait pas d'air là-dedans.
Voilà, alors on va en parler évidemment avec vous, on va en parler avec Marion dans un instant qui va nous livrer son témoignage sur cette antenne puisque Marion elle a une petite fille de 2 ans et demi qui n'a jamais vu son papa. Et puis on va en parler avec vous. Si vous souhaitez intervenir sur cette antenne, vous le savez, vous composez le 3210 ou alors vous vous rendez sur les réseaux sociaux. Petite précision, donc vous l'avez compris aujourd'hui, on parle de ces mamans qui élèvent seules leur enfant. Alors on sait effectivement, et on l'a déjà traité, qu'il existe aujourd'hui en France beaucoup de scénarios familiaux différents et notamment les familles homoparentales. D'ailleurs on embrasse toutes celles qui nous écoutent et qui ont la chance de pouvoir s'occuper d'un enfant et de pouvoir le rendre heureux. Mais bien évidemment, aujourd'hui, c'est le thème que nous avons choisi. Et je m'adresse également aux papas qui nous disent « Mais oui, mais nous aussi, on peut se débrouiller puis on peut se retrouver sans maman. » Bien sûr, on est entièrement d'accord. Sauf que le thème du jour, c'est celui-ci. Et c'est ce à quoi on vous invite aujourd'hui sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Olivier nous écrit sur Facebook au sujet des mères célibataires, ces mères qui élèvent seules leur enfant. Quand on dit seules leur enfant, c'est sans soutien financier, sans soutien affectif. Je trouve que c'est difficile pour une femme célibataire d'élever un enfant toute seule, nous écrit Olivier. Il faut les aider et surtout qu'elles soient entourées de la famille et d'amis pour un soutien moral. Alors ça n'est pas toujours le cas et justement, quand elles sont en souffrance, elles peuvent se tourner vers la fondation Cas d'urgence que représente aujourd'hui Christine Aron, votre invitée dans ce studio. Et puis Myriam Ségère est là aussi pour nous parler de l'aspect psychologique, sur les enfants, sur les mamans. Et je vais vous demander de rebondir aussi sur le message de Val. Ce n'est pas évident pour les mamans seules qui doivent aussi avoir le rôle du papa en plus, mais ce n'est pas facile non plus pour les enfants qui ont le manque d'une figure paternelle pour leur éducation, développement émotionnel et affectif. Une maman ne peut pas tout faire mais reste un super héros. Est-ce que c'est là effectivement la limite du rôle maternel, Myriam Ségère, dans ce genre de circonstances? C'est-à-dire qu'on ne peut pas endosser tous les rôles et c'est là effectivement qu'on se rend compte qu'il y a un partage des tâches et des fonctions dans un couple parental, quel qu'il soit.
Que ces mères en aient conscience qu'elles ne peuvent pas endosser tous les rôles.
Parce qu'elles ont tendance à vouloir tout faire.
Voilà. Mmh. Hein, la tendance, ça serait de combler. Souvent, elles se sentent un peu coupables qu'il y ait personne à la place du père. Hein. Et puis, elles ne savent pas quoi en dire de cette absence. Ce sont les questions qu'elles posent. Comment lui en parler? Comment le faire exister? Ou bien, est-ce qu'il faut passer ça sous silence? De toute façon, l'enfant finit par revenir à la charge.
Très logiquement, d'ailleurs, en se comparant.
Moi, il est où, mon papa? Parce qu'il voit les autres.
Oui, bien sûr.
Donc, je crois que, certes, cette figure-là, la figure du père, existe socialement, donc elle va revenir d'une façon ou d'une autre, et il faut que les mères soient prêtes à ça, et qu'elles ne vivent pas ça comme quelque chose de tabou.
Voilà, ça fait partie, en tout cas, de l'existence. Enfin, ça fait partie de la vie de l'enfant que d'avoir un père absent physiquement, mais peut-être présent dans l'idée. Comment ça se passe dans la Fondation Cas d'urgence, Christine Aron? Est-ce que ces femmes qui viennent vous voir connaissent le père de leur enfant la plupart du temps?
Est-ce oui, il y a des femmes qui connaissent le père. Après, il y a des pères qui sont là, mais qui n'assument pas vraiment leur paternité. C'est-à-dire que des fois, ils récupèrent pas les enfants ou ils les voient pas régulièrement, ils posent des lapins à la maman, donc c'est vrai que c'est des fois un peu compliqué pour les mamans de fonctionner comme ça, parce que dans leur organisation aussi, ça peut être pesant.
Bien sûr, donc parfois c'est peut-être plus simple quand il n'y a pas de papa du tout, du coup.
Peut-être, Myriam. Certains pères ont l'impression que comme ils n'ont pas porté les enfants dans leur ventre, la question que les enfants, ça pousse tout seul. Hein,
oui, qu'il n'y a pas de responsabilité là-dedans.
Ça ne nécessite pas une responsabilité, une présence et beaucoup d'investissement. Et ils vont se comporter d'une manière un petit peu comme des déserteurs, mais simplement parce qu'ils n'ont pas pris conscience de leur paternité.
Donc c'est une forme d'irresponsabilité.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de pères qui sont égoïstes et qui ne sont pas suffisamment matures pour comprendre qu'un enfant, ça a besoin d'un père et d'une mère, et que l'enfant, quand il grandit avec seulement sa mère, et après, quelques années après, se retrouve en difficulté parce qu'il n'a pas eu cette figure paternelle qui l'aide à grandir et qui lui donne une certaine identité aussi.
On va demander, si vous le voulez bien, à Marion, si elle se pose ces questions-là. Bonjour Marion, bienvenue sur RTL.
Bonjour.
Comment ça va Marion?
Bah écoutez, ça va bien, merci.
Oh, cette jolie petite voix. Quel âge avez-vous Marion?
22 ans.
Ah, alors 22 ans déjà, maman.
Tout à fait.
Comment s'appelle votre petite fille?
Elle s'appelle Maëlys.
Bon, et Maëlys, elle a 2 ans et demi. Et c'est une petite fille qui n'a... Oh, elle est avec vous?
Oui, tout à fait, à côté de moi.
La petite puce, on est en train de l'entendre gazouiller. Elle va bien déjà, Maëlys?
Oui, très bien, très bien.
Bon. Ça vous dérange pas qu'on discute avec Maëlys juste à côté? C'est bon pour vous?
Non, 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 non,
D'accord.
Non, allez-y, faites.
Bon, alors, Maëlys, elle n'a jamais vu son papa ? Allô ? Ah bah c'est allô, marrant. Oui. Au moment où on pose la question cruciale, évidemment, ça coupe. Maëlys... Maëlys n'a jamais vu son papa, Marion ?
Non, jamais.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Alors, le jour que j'ai appris que j'étais enceinte, donc pour moi, c'était le monde qui s'écroulait.
Ouais. Donc, c'était quelque chose de surprise.
Quand je lui ai annoncé, il a pris peur, quoi. Et puis, il est parti et j'ai jamais eu de nouvelles après, quoi.
Est-ce que vous savez où il est ?
Oui, à 9 km de chez moi.
Il est juste à quelques kilomètres de chez vous. Est-ce que vous avez tenté de le joindre et de revenir vers lui ?
Tout à fait. Pendant 2 ans, donc à ces deux ans, je me suis battue pour qu'il voit qu'il a une fille, quoi. Et donc j'ai envoyé une photo juste en disant c'est Maëlys, donc elle a 1 an. Ouais. À la deuxième année, donc elle a 2 ans. Et puis j'ai jamais eu de retour, quoi.
Marion, qu'est-ce qu'il vous a dit quand il est parti ?
Il m'a supplié d'avorter.
Mais il vous a expliqué pourquoi il vous suppliait de le faire ?
Non. Je n'ai jamais eu aucune explication.
À votre avis ?
Moi, je sais qu'il a vécu sans ses parents, ils sont partis jeunes.
Oui, oui.
Donc, je ne sais pas.
D'accord. Est-ce que vous pensez aussi quel âge a-t-il ? Il est plus âgé que vous ou il a votre âge ?
Il est de mon âge.
D'accord.
À mon près, il est de mon âge.
Est-ce que vous pensez aussi que l'arrivée d'un enfant, pour lui, ça a représenté une responsabilité qu'il ne se sentait pas forcément capable d'endosser ?
Tout à fait, parce que il est jeune, il était comme moi, il veut profiter de la vie, c'est normal.
Ouais.
Mais après, il a fait la bêtise, ça a le but d'assumer aussi, quoi.
Marion, quand vous avez réalisé que vous étiez enceinte, vous aviez envie, ça a été une évidence pour vous de garder cette petite fille ?
Au début, non, parce que j'étais pas prête, je venais juste d'avoir mon logement, je devais avoir un contrat, donc signer un CDD, etc. Donc pour moi, c'était pas le but. Mais après, elle a eu plusieurs circonstances par rapport à sa famille que je n'ai pas accepté. Et c'est là que j'ai choisi que je la garde avec moi, près de moi.
Mais parce que
j'avais pas besoin d'eux pour m'en sortir, quoi.
D'accord, vous aviez envie de cet enfant au fur et à mesure, Marion. D'accord. Marion, on va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant. On va poursuivre notre conversation, évidemment, avec vous et sous l'oreille bienveillante de nos invités et de nos auditeurs. Vous ne bougez pas et nous non plus. Donc, normalement, on se retrouve dans un instant, Marion. À tout de suite.
D'accord, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Voilà, peut-être avez-vous entendu le début du témoignage de Marion il y a un instant sur cette antenne. Marion, elle a 22 ans, c'est la jeune maman d'une petite fille, Maëlys, qui elle a 2 ans et demi. Un jour, Marion a réalisé qu'elle était enceinte et le papa de Maëlys, le père de Maëlys, s'est enfui visiblement au moment de cette grossesse, après avoir demandé à Marion de mettre un terme à cette grossesse. Marion, vous êtes toujours avec nous ?
Oui.
Elle est toujours avec vous, la petite Maëlys ?
Oui, toujours.
Est-ce qu'elle vous pose des questions sur sa situation de vivre avec sa maman, mais de ne pas avoir de papa ?
Non, pas du tout.
Est-ce que vous avez envisagé le jour où elle vous posera des questions ?
Je reste sur mes gardes, mais j'essaie de pas trop y penser pour le moment, le temps qu'elle est petite, quoi.
Oui, alors en même temps, c'est vrai qu'un jour, ça va arriver. Il va peut-être falloir se préparer à répondre à ces questions qui peuvent paraître essentielles pour Maëlys. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vivez toujours dans ce logement qui était le vôtre au moment où vous étiez enceinte, Marion ?
Non. Quand j'ai été tombée enceinte, donc vu que j'ai été malade du début à la fin de ma grossesse, j'ai perdu mon travail, j'ai perdu mon logement juste après.
Qu'est-ce que vous faisiez comme travail, Marion ?
Donc, je travaillais dans une usine qui s'appelait Volabré. Donc, j'étais à la découpe. Donc, cela, ça faisait plusieurs mois que j'étais ici. Puis, malheureusement, vu que j'étais enceinte, vu que c'est pas hygiénique avec le travail que je faisais, vu que je travaillais dans la viande, fin de contrat. Et puis, au revoir.
Et là, vous êtes où, alors ?
Donc là, à l'heure actuelle, j'habite chez mon père.
Ça fait combien de temps maintenant que vous êtes chez votre père, Marion ?
Cela, maintenant, ça fait un peu plus de... Ça va faire 1 an et demi.
Ça vous convient, cette situation ?
Non, pas du tout.
Vous aimeriez retrouver un emploi ?
Oui. Un emploi, une vie sereine et avoir mon logement avec ma fille pour vivre, quoi.
Le père de Maëlys a disparu. Vous l'avez sollicité aussi pour élever Maëlys, ne serait-ce que financièrement ?
Non. Jamais, je veux rien de cette personne-là.
D'accord. Donc, parce que vous, en fait, vous nous expliquez que, quelque part, vous voulez leur prouver que vous n'avez besoin de personne.
Bah, moi, si je voulais leur prouver, c'était pour que ma fille, elle a un papa.
Ouais.
Parce que moi, j'ai vécu sans mes parents, ils ont été séparés.
Oui.
Donc, moi, je voulais pas reproduire les mêmes erreurs pour ma fille, quoi.
Et dites-moi, et Marion, vous pensez que Maëlys, elle va avoir peut-être, elle, besoin, justement, de ça? C'est-à-dire que vous, vous estimez qu'effectivement, vous pouvez vivre sans, mais peut-être que Maëlys en aura besoin?
Tout à fait.
Et alors, qu'est-ce que vous allez faire?
Je lui dirai la vérité. Puis, quand elle aura l'âge, quand elle sera plus grande, ça sera elle de prendre contact. Et puis,
D'accord.
On verra comment ça se passera avec lui, quoi.
Est-ce qu'il y a des moments, c'est difficile, Marion, aussi, le soir, vous savez, quand on a passé la journée, qu'on est crevé, qu'on n'en peut plus, qu'on craque un peu?
C'est très difficile, le soir.
Vous en parlez avec des amis?
Oui, j'en parle avec des amis, mon père, tout ça, quoi. C'est pas simple non plus d'élever un enfant tout seul, quoi.
Qu'est-ce qui est si difficile?
Pour l'autorité, déjà, pour commencer, parce que le fait qu'elle est toujours avec moi à tenir, donc... à la force que je la reprends, que je suis dans une bonne éducation, c'est bien évolué maintenant, donc elle me rigole au nez, quoi.
Et ça, vous avez du mal avec ça?
Tout à fait.
Est-ce que vous êtes fatiguée, Marion?
Un petit peu, oui.
Parce que ça use, quand même, des petits bouts comme
tout
ça.
Tout à fait, le fait de l'avoir tout le temps, c'est un peu épuisant.
Il y a des moments, ça rend vos relations peut-être un petit peu plus compliquées avec Maëlys ou pas?
Non, pas du tout.
D'accord. C'est-à-dire que vous tenez le choc, mais vous sentez quand même qu'il y a un moment où on a des limites, non? Limites physiques, psychologiques. Moi, j'ai le souvenir, quand mes enfants avaient 2 ans et demi, je peux vous assurer qu'il y a des moments où j'en pouvais plus, je craquais, quoi.
Ah, ça, je veux bien vous croire.
Oui, donc vous connaissez ça, mais vous connaissez ça toute seule.
C'est ça.
Est-ce que vous aimeriez aujourd'hui être accompagnée de quelqu'un?
J'ai été accompagnée après la rupture que j'ai eue. Donc, quand ma fille elle avait 3 semaines, j'avais rencontré quelqu'un. C'était le poteau à Maëlys, parce que pour moi, elle n'a qu'un papa, elle n'a qu'une maman. Et lui, il était d'accord, donc c'était poteau. Pour moi, c'est lui le papa, quoi. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, maintenant, il a toujours été là pour la fille, quoi.
Ah, donc il est toujours présent, cet ami, ce tonton?
Oui.
D'accord.
Non, c'est mon ami à moi, alors, actuellement. Je me suis mis en couple avec lui.
Mais c'est votre compagnon, alors?
Oui, je suis chez mon père, alors, actuellement.
Mais est-ce qu'il intervient dans l'éducation de Maëlys?
Oui, il m'aide beaucoup.
Ah, d'accord. OK. Alors, on va essayer de faire un point. Myriam Ségère, elle a l'air d'avoir la pêche, votre petite fille. Ça, c'est plutôt très agréable.
Oui, elle a la pêche.
Alors, dans un instant, Myriam, vous allez pouvoir parler avec Marion. Marion, vous nous accordez encore quelques instants? D'accord, vous restez avec nous,
souci.
Ok. On se retrouve tout de suite sur RTL. Christine Aron et Myriam Ségère vont pouvoir discuter avec vous. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Je trouve qu'élever des enfants, ce n'est déjà pas simple, nous écrit Geneviève. Alors les élever seuls, cela doit être encore plus compliqué. Ce sont des mères courageuses qui ont tout mon respect. Liliane, je me retrouve seule après mon divorce à élever ma fille. Le papa a complètement déserté. Pas facile d'être tous les jours une super maman et un super papa en même temps. Dur, dur, mais elle est mon rayon de soleil. Alors on va voir évidemment avec nos invités qui sont Christine Aron et Myriam Ségère si il faut... endosser tous les rôles, parce que justement ce qu'on disait avant d'entendre le témoignage de Marion, c'est qu'il faut savoir faire montre un peu d'humilité et connaître ses limites, Myriam Ségère. Marion, elle vient de nous expliquer un peu sa vie, sa situation, avec la petite Maëlys sur les genoux. Maëlys qui a dû quand même quelque part en apprendre un peu, non, aujourd'hui à 2 ans et demi, Maëlys elle saisit les choses, Marion, vous êtes toujours avec nous?
Oui.
Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, Myriam?
Qu'elle n'a pas perdu sa journée. Elle a quand même entendu que le tonton, c'est pas son père, mais qu'il est là quand même, que c'est le pote à maman, que son père, il existe, qu'il est à quelques kilomètres, etc. Donc,
est-ce qu'une petite fille de 2 ans et demi commence à comprendre, en fait? Voilà,
alors,
c'est ça.
Elle est entre les deux. Elle en est plus au stade où elle va stocker inconsciemment les informations qu'on les lui donne pour pouvoir s'appuyer dessus dans son développement, et elle commence à essayer d'y comprendre quelque chose. Donc je pense qu'à 2 ans et demi, un enfant a droit déjà à quelques explications, les explications qu'il est capable de traiter à son âge.
Voilà, donc en les adaptant à son
son âge.
En les adaptant à son âge, à mais fragilité. En lui donnant quand même les informations qui le concernent. Et il y a des informations comme qui est ton père, comment, où il est, pourquoi il n'est pas là. Hein, le sens, c'est important. Et quand on leur explique à cet âge-là, c'est faut voir leur réaction quand même. C'est important. Là, elle a entendu des choses et nous, on l'a entendu. Elle nous a bien dit que ça l'intéressait ce qu'elle entendait.
Oui, on l'a entendu gazouiller sur vos genoux, Marion. Marion, ça veut dire effectivement qu'elle va commencer à vous poser des questions, Maëlys. Hein, il faut s'y attendre, comme nous l'explique Myriam Ségère, c'est que elle commence là à saisir qu'il y a peut-être des choses différentes.
Écoutez, toute question posée par un enfant, il ne faut pas que ça donne une révélation. Les révélations, elles sont toujours traumatisantes. Hein. Ce qui serait bien, c'est l'idéal, c'est qu'un enfant grandisse sans qu'il y ait de révélation, qu'il grandisse dans la vérité de son histoire.
Oui, exactement. Hein,
et que petit à petit, on l'étoffe avec les choses qui sont peut-être plus dures à entendre quand on est trop petit, mais qu'on en dise en tout cas l'essentiel. Donc, ce n'est peut-être pas la peine. En plus, les enfants, en général, quand ils sentent qu'on n'a pas trop envie de répondre aux questions, comme ils ne veulent pas être rejetés ou mal aimés, ils ne vont pas les poser.
Hein. Voilà, ils ne disent rien.
Ou alors,
rien.
Ils les poseraient en guerrier parce qu'ils ne sont pas contents après leurs parents. Et ce n'est pas comme ça. Il vaut mieux que ça ne se passe pas comme ça. Il vaut mieux que anticiper les choses, hein, et dire à l'enfant les choses, les questions qu'il pourrait se poser, qu'on imagine qu'il va pouvoir se poser. Il faut peut-être lui en parler avant.
Alors, on a reçu d'ailleurs un mail qui nous a beaucoup touché il y a un instant, de Sandrine. J'ai eu mon bébé après un long combat de 5 ans et plusieurs fives car mon mari était malade. Clément est né en septembre 2014 et malheureusement son papa est décédé en octobre. Bien sûr, je me pose plein de questions. Puis-je le rendre heureux, épanoui moi seul? M'en voudra-t-il plus tard? En tout cas, je n'ai jamais regretté de l'avoir eu, même à ce moment-là. Et les 3 semaines où Clément et son papa ont vécu ensemble sont précieuses dans mon cœur. Actuellement, certaines situations me rendent triste, notamment quand Clément montre un réel besoin de se rapprocher des papas des autres enfants. Mais nous parlons beaucoup de son papa. Il le voit en photo et lui fait un bisou le soir. Il est bien dynamique et heureux, et moi aussi. Sandrine, merci pour votre mail, on vous embrasse et on vous souhaite plein de bonheur évidemment avec Clément. Clément, il n'ignore pas son histoire. Là.
Ben, Clément, il fait avec, c'est son histoire.
Exactement.
À lui. Hein. C'est pas la même que celle du petit camarade, donc de temps en temps, il se dit, ça pourrait peut-être plus simple aussi chez moi, mais bon, c'est la sienne, il se l'approprie et il vit avec.
Voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter donc pour Maëlys.
Même s'il dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un monsieur qui lui serve
évidemment.
Le papa.
Et ça, on ira après sur cette conversation, c'est qu'on peut trouver dans une vie des figures tutorales aussi, qui ne remplacent pas forcément un papa, mais qui peuvent devenir autant de balises de sécurité pour grandir dans l'existence.
Qui peuvent en avoir la fonction d'une certaine façon.
Et c'est peut-être l'histoire du tonton, le fameux tonton dont nous parle Marion.
Ou même du grand-père.
Ou même de votre papa, Marion. Est-ce qu'il est présent, votre père, dans l'éducation de Maëlys?
Oui, tout à fait.
Il intervient quand vous en avez besoin, il passe du temps avec Maëlys
Du temps, pas trop, parce que Maëlys, elle est toujours derrière moi, donc partout où je vais, faut que c'est les pleurs, les cris, donc faut qu'elle vienne, quoi. Mais quand je suis là, je sais qu'il profite beaucoup de son grand-père et elle est très, très, très heureuse avec lui, quoi.
Voilà, c'est une petite fille qui a des figures donc masculines dans son existence. Marion, vous n'allez pas pouvoir rester vivre chez votre père pendant toutes les années qui viennent. Il va falloir reprendre le chemin du travail, il va falloir
réactiver. Si tout va bien, ma fille, elle va aller à l'école en début d'année.
Ah, d'accord.
Donc après, ça pourrait être bien pour le travail. Là, tout va bien, là, au début du mois, j'ai mon logement, donc
c'est bien.
C'est que du positif maintenant, quoi.
Bon, très bien. Le fameux positif. Alors, c'est vrai qu'il y a une association, la Fondation d'ailleurs, hein, Cas d'urgence, qui aide à se tourner vers le positif. Christine Aron, vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui. Est-ce que des jeunes filles, dans le cas de Marion, peuvent se présenter à la Fondation? Comment ça se passe pour leur remettre un pied à l'étrier à ces jeunes filles? C'est au cas par cas?
Ben oui, c'est au cas par cas. Ça dépend de la situation. Donc, l'association est vraiment là pour donner un petit coup de pouce. Ça veut dire que, par exemple, dans le cas de Marion, si elle souhaitait justement partir à la recherche d'un emploi avant même que son enfant aille à l'école, on pourrait lui donner un petit coup de pouce justement par rapport à la garde d'enfants, qui est peut-être l'aider à trouver une place en crèche. C'est vraiment là que l'association Cas d'urgence peut aider les gens pour aller aussi à la recherche d'une formation, peut-être passer un permis de conduire, des choses qui puissent aider la mère en fait à être beaucoup plus fonctionnelle dans son quotidien.
Donc en fait, au rôle de la maman de distinguer ce qui l'entrave finalement dans sa vie et de se tourner vers vous et de vous présenter en tout cas sa situation de sorte que vous puissiez lui rendre
voilà,
service.
Voilà, c'est vraiment pour aider les gens qui sont motivés, qui veulent vraiment travailler et puis avoir une meilleure situation pour leur enfant.
Alors, on va embrasser Marion. On vous remercie Marion. On vous souhaite plein de bonnes choses avec Maïlys. Et puis bon, vous l'aurez compris hein, à travers effectivement les conseils éclairés de Myriam Segère, Marion, que Maïlys, elle doit commencer à piger 2-3 trucs. Donc peut-être effectivement, si je peux me permettre, c'est le moment de lui donner à Maïlys des racines ou l'idée en tout cas d'un passé. Hein. Vous prenez soin de vous, Marion. On vous souhaite plein de bonnes choses dans votre nouvel appart, le boulot et tout.
Merci, c'est gentil.
Vous nous tiendrez au courant ?
Pas de soucis, je vous tiendrai au courant. Maintenant, normalement, j'espère que ça ne sera que le positif. Quoi.
Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous et de votre petite fille.
Merci.
À bientôt, Marie,
merci.
On vous embrasse.
À bientôt, au revoir. Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
France, j'ai élevé seul mon fils, mon ex ayant décidé que c'était ma tâche puisque j'avais décidé de me séparer de lui. Heureusement que ma mère était là pour me soulager car je devais jongler entre mon boulot, des heures de ménage pour arrondir les fins de mois pour que mon fils ne manque de rien. Aujourd'hui, on parle de ces mamans qui un jour se retrouvent seules avec leur enfant. Alors parfois, ça commence à l'instar de Marion au moment des premières semaines de grossesse et puis parfois c'est plus tard, à la faveur triste d'une séparation. Myriam Segère, on vient d'entendre Marion, Maïlys, elle a 2 ans et demi, elle nous parle déjà de problèmes d'autorité. Autorité. Est-ce que c'est plus difficile quand on est seul de faire s'entendre ?
Beaucoup plus difficile, d'avoir un relais, quelqu'un qui puisse intervenir là au milieu, qui dise bon ça suffit maintenant, c'est comme ça et pas autrement, oui. De mettre un peu d'arbitraire, ce que les mères ont parfois du mal à faire.
Avec la culpabilité en plus qui fait
absolument, que... Absolument.
On n'a pas envie d'être seul responsable des engueulades à la maison.
Voilà, on voudrait faire autre chose que le gendarme. Et je crois que c'est à partir de 2-3 ans, il y a un moment là un peu épineux chez tous les enfants. Donc quand la mère est seule avec, de ne pas avoir de relais, c'est difficile, autant pour la mère que pour l'enfant d'ailleurs, qui a besoin de rencontrer les limites.
Ces limites sont parfois posées par les deux et aussi par le père. Est-ce que c'est plus compliqué aussi au moment de l'adolescence ? Parce que c'est quand même un âge que l'on craint, hein, que l'on voit arriver avec un petit peu d'angoisse. Ils ont quel âge vos enfants d'ailleurs, Christine Aron ?
Mon fils a 14 ans et ma petite fille a 3 ans.
D'accord.
Et c'est vrai que...
C'est pas évident.
Ouais, moi j'ai rencontré quand même pas mal de problèmes avec mon fils, même s'il voyait son père un week-end sur deux et un mercredi sur deux. À 14 ans, enfin il a commencé à faire sa petite crise à 11 ans quand même.
Ah ouais, l'adolescence c'est un moment difficile.
Je sentais voilà, qu'il était en recherche d'identité et c'était quand même difficile pour lui d'avancer et même dans notre relation c'était compliqué. C'est pour ça que moi je l'ai quand même emmené voir un psy pour qu'il puisse trouver des repères, comprendre certaines choses parce que c'est vraiment pas évident cette période d'adolescence, surtout pour un petit garçon.
Est-ce que c'est plus difficile effectivement Myriam Segère quand le parent est seul?
Vous savez, l'adolescence, c'est une remise en jeu de ce qui s'est passé à la naissance. Donc, de toute façon, c'est agité.
Oui.
Alors, à savoir si c'est plus difficile pour le garçon que pour les filles, je crois que non. Je crois que simplement, à ce moment-là, ils ont besoin d'une mise au point, qu'on leur réexplique les choses et puis que s'installe un climat de confiance, la confiance qu'on met en eux de devenir quelqu'un de bien,
oui.
Avec l'histoire qui est la leur.
Oui, mais avec en même temps une autorité qui doit s'appliquer avec encore plus de conviction. Et c'est difficile quand ils font notre taille et qu'ils nous regardent les yeux dans les yeux et qu'il y a un problème.
Mais si je parle de confiance, c'est peut-être que pour pouvoir asseoir une autorité, il faut d'abord qu'il y ait de la confiance.
Oui, tout à fait.
Après, ça peut se passer dans un climat moins violent.
Karine, j'élève seule ma fille. Son père ne l'a pas reconnue, ne l'a plus vue depuis ses 18 mois. Néanmoins, je n'ai jamais dit du mal de son père. Elle a 16 ans aujourd'hui, elle est brillante à l'école. Je suis fière de la jeune adulte qu'elle devient. La vie ne nous a pas épargnés, mais Malili est équilibrée et mature. Toutefois, je pense que son père lui manque. Le jour où elle le voudra, elle le rencontrera sans doute. Mais je redoute tant ce jour. Mère célibataire, c'est difficile, mais c'est beaucoup de bonheur aussi. Est-ce que les enfants, à un moment donné aussi, décident de rebrousser chemin et d'aller à la rencontre de leur passé? Quand leur père n'a pas forcément été là, est-ce que les enfants décident de les retrouver ? Est-ce que c'est important pour eux de les entendre dans ces moments-là ?
Écoutez, oui, certains vont vouloir rencontrer leur père, d'autres non. Hein. Je crois qu'ils ont tous une histoire singulière et c'est, ils sont pas calibrés. Si je veux voir mon père que j'ai jamais vu, ça dépend de ce qu'on leur a dit, ce qu'ils savent de lui, qui il est, comment le sens de leur histoire.
Est-ce que c'est important de les soutenir aussi quand ils veulent faire cette démarche en tant que parents, c'est-à-dire être capable de mettre de côté sa rancœur, le fait d'avoir tout assumé pendant tant d'années et de voir tout à coup son enfant qui a besoin de se tourner vers l'autre qui a été si absent.
Là encore, les paroles sont nécessaires pour faire la part des choses. Moi, je suis en colère après lui, je ne lui ai jamais pardonné, etc. Mais c'est lui ton père.
Oui.
Si tu veux le rencontrer, c'est ton droit, c'est ton histoire.
Ces jeunes femmes, est-ce qu'elles ont, selon vous, Christine Aron, toujours l'espoir de voir revenir un homme à ses responsabilités et à son devoir de père ? Est-ce qu'elles ont fait le deuil de cette présence-là ?
Elles peuvent toujours avoir l'espoir, mais c'est vrai que ça dépend aussi du père s'il accepte de se remettre en question et vraiment de prendre ses responsabilités. Mais c'est sûr qu'à gérer au quotidien, vaut mieux, dans un premier temps, ne pas trop espérer et assurer quand même le quotidien de l'enfant si le père ne s'implique pas.
Myriam ?
Moi, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui, curieusement, ne veulent rien du père. Elles sont en colère, elles trouvent qu'il s'est mal conduit, qu'il est un mauvais père et elles veulent rien accepter. Ni argent, ni présence, ni rien. Et là, ça devient compliqué parce qu'il faut expliquer aux enfants qui s'espère alors.
Oui, hein.
Est-ce qu'il est vraiment si mauvais qu'elle le dit ou est-ce que c'est autre chose, mon histoire ?
On parlait de l'adolescence, un message de Maria. Je vis seule avec mes trois fils depuis 11 ans. Ils ont aujourd'hui 24, 22 et 19 ans et je trouve que c'est encore plus difficile depuis leur adolescence que lorsqu'ils étaient plus jeunes. Maria, on vous embrasse. Alors, être entouré un maximum, évidemment, ça fait partie des choses que l'on peut mettre en place lorsque l'on se retrouve seul avec un enfant et on va parler tout de suite avec vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
J'ai un petit garçon de 9 ans, nous écrit Nati. Il n'a jamais vu son père car nous nous sommes séparés quand j'étais enceinte, mais en lui laissant la possibilité de le voir sans contrainte. Il m'a répondu qu'il n'était pas un compte bancaire. Aujourd'hui, mon fils connaît l'histoire et si un jour il veut le retrouver, je l'aiderai. Merci Nati pour votre fidélité. Linda, j'élève ma fille seule depuis toujours. Son père est parti le jour de sa naissance. Ma fille n'avait pas une bonne santé. Elle est née prématurée. J'ai traversé ça toute seule. Le plus difficile, c'était les hospitalisations. Aujourd'hui, elle a 16 ans. Je sais qu'elle souffre, mais elle ne se plaint pas. Bisous et courage à toutes les mamans qui sont comme moi. La parole se libère sur les réseaux sociaux. Au fur et à mesure de cette émission, Myriam Segère, on a vraiment le sentiment que beaucoup de femmes ont besoin de se retrouver en se disant qu'elles ne sont pas seules à vivre ça. Et d'ailleurs, je vous remercie toutes pour les messages que vous nous laissez sur les différents réseaux sociaux. Myriam Segère, c'est important aussi lorsque l'on se retrouve dans cette situation avec un enfant qu'on doit assumer seul sur tous les plans, de pouvoir se tourner vers les autres ou en tout cas d'essayer d'être entourée et
C'est capital autant pour la mère que pour l'enfant.
Oui.
Et que l'enfant doit percevoir qu'il n'est pas tout pour sa mère. Or, le problème, c'est quand on se retrouve seul avec un petit enfant, le manque de liberté est total. Donc, l'occasion
on est un peu pris en otage par la situation.
De fréquenter est vraiment difficile, surtout quand ils sont tout petits. Alors, évidemment, la famille. Mais parfois, c'est compliqué, les familles aussi. Ils ne sont pas ni disponibles, ni d'accord pour assurer leur fonction familiale auprès de l'enfant et de sa mère. Et les amis, c'est bien d'en avoir. Encore faut-il en avoir et faut-il avoir l'opportunité de s'en faire.
Donc, il faut essayer quand même un maximum de pouvoir s'entourer, même si effectivement, ce que vous nous expliquez, c'est difficile. Est-ce qu'il faut chercher aussi dans un entourage une figure masculine lorsque le père n'est pas là ?
Alors, une ou des. Il ne faut pas à tout prix chercher un représentant paternel comme
ça. De substitution.
Voilà. Alors bon, il y a des parrains qui peuvent faire l'affaire, mais c'est fragile le statut de parrain. Ils peuvent être là un moment et puis disparaître par la suite. Il y a des grands-pères aussi qui assurent, mais avec le danger de se retrouver avec un enfant en position incestueuse parce que ce n'est pas l'enfant du grand-père et de sa fille. Donc,
il
faut bien qu'ils comprennent ça. Et donc, c'est bien en théorie, en pratique, c'est pas toujours simple, mais c'est bien qu'il y ait du monde. Ça peut être le tuteur, enfin on peut appeler ça le tuteur. Le tuteur, il peut être quelqu'un à l'école, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui prend cette fonction parce qu'il a envie de la prendre. C'est bien quand il y en a un.
Voilà, c'est important en tout cas pour les enfants. Est-ce que l'association Cas d'urgence favorise le lien social ou en tout cas permet à toutes ces femmes qui se retrouvent seules avec un enfant de se retrouver physiquement et de pouvoir partager leur expérience, Christine Aron ?
Oui, oui, bien sûr. À l'occasion de la Journée mondiale des parents, la Fondation, l'association Cas d'urgence organise une journée conseil pour les familles monoparentales. Donc, il y a des conseils en fait avec des. Ce sont des conseils gratuits avec des huissiers justement pour aider les familles des fois à récupérer une pension alimentaire parce que 40% des pensions alimentaires ne sont pas payées. Il y a des conseils aussi pour des séances de coaching pour l'emploi. Il y a différents, il y a la CAF qui est présente, il y a des conseils de psy, comment faire un CV, il y a tout un tas de choses aussi. Et puis il y a des, aussi par moment des cadeaux qui sont offerts aux enfants. Il y a des journées qui sont organisées, par exemple, pour visiter le Stade de France avec des champions. Il y a des petits voyages, des billets d'avion qui sont payés aussi pour les enfants qui n'ont jamais eu l'occasion de partir en vacances. Donc il y a différentes petites choses quand même qui sont offertes aux familles monoparentales qui sont vraiment en difficulté.
Voilà, créer du lien.
Et voilà, créer du lien. Et puis, c'est aussi juste un moment aussi pour ces familles de partager en fait leur expérience et se dire voilà, qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'ils peuvent avoir des gens sur qui compter dans la difficulté.
Parce qu'effectivement, il peut y avoir une forme de pénurie affective et puis il peut y avoir la précarité qui guette. Est-ce qu'il faut se tourner absolument vers les associations lorsque l'on sent qu'on est en train de dévisser ? Parce qu'on a quand même un enfant. Donc, il doit y avoir des premiers signaux à un moment donné d'urgence qui doivent s'éclairer et qu'il faut savoir écouter.
De toute façon, les familles nos parentales sont les premières victimes de la crise, du surendettement. Une famille sur trois vit sous le seuil de pauvreté. Donc vraiment, il y a des fois, elle tape à toutes les portes et y a des associations pour ça. Elles peuvent se tourner vers des associations, dont l'association Cas d'urgence, justement, pour être aidées, pour être écoutées et pour trouver en tout cas une solution ponctuelle à leurs problèmes.
Myriam Ségère.
Surtout dans les villes.
Oui, surtout dans les villes, évidemment, se tourner. Pour aller sur une note, vous qui êtes donc spécialiste aussi des enfants, hein, Myriam Ségère, est-ce que l'on peut, pour terminer sur une note positive, se dire que nos enfants ont une capacité de résilience aussi, si on leur donne toutes les chances de bien comprendre leur situation ? Est-ce que les parents aussi qui élèvent leurs enfants seuls peuvent se dire que, voilà, ils peuvent s'en sortir, ces gamins-là ? Ils peuvent à un moment donné aussi réussir, ils peuvent s'épanouir, même si effectivement les parents sont animés par la culpabilité d'être seuls.
Et non seulement ça, mais ils doivent s'en sortir.
Oui, ils n'ont pas le choix. Non, mais c'est important de les.
Et je crois que c'est important de
ne pas partir vaincu aussi.
Voilà, de croire en eux et de croire en soi. Oui. Et sur la possibilité qu'a une femme seule de mettre au monde un enfant et d'en faire quelqu'un de bien. Je crois que cette confiance, elle est nécessaire, même surtout dans les moments difficiles. Si on respecte l'enfant, si on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'il a besoin ? Qu'est-ce qu'il concerne ? Qu'est-ce qu'il faut lui dire ? De quoi a-t-il besoin pour grandir ? Eh bien, on peut y arriver.
Évidemment, on peut y arriver. En tout cas, on espère que cette émission vous aura donné la pêche et vous aura boosté si vous êtes seul et que vous étiez à notre écoute. On va se retrouver dans un instant. On va rappeler donc les coordonnées de l'association et puis je vais vous parler du programme de demain.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Myriam Ségère, un petit mot pour la fin, pour la route. Un petit conseil pour ceux qui nous écoutent.
Dans les moments difficiles, dans les moments de crise, quand on sent que l'enfant est en souffrance et qu'il le fait savoir, je crois qu'il ne faut pas hésiter à consulter. Il n'y a pas de honte à ça.
Non. Hein.
On n'est pas parti sur une psychanalyse pour 10 ans. Ça peut être simplement un coup de main à un moment où c'est difficile, qui va remettre les choses au point pour l'enfant, pour sa mère, et qui vont peut-être aider à franchir cette étape.
Voilà, ça fait passer la vague.
Voilà.
Exactement. Ben, merci beaucoup, en tout cas, Myriam Ségère, pour vos conseils. Donc, je rappelle que vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste, présidente de l'association La Cause des Bébés. Et puis, votre ouvrage, Si les bébés pouvaient parler, est aux éditions Bayard. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On ne va pas courir après vous, Christine Aron, parce que vous êtes beaucoup plus rapide que nous, mais je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc l'association Cas d'urgence. Pour celles qui nous écoutent, sachez que le numéro de téléphone que vous pourrez retrouver en podcast, évidemment, sur rtl.fr, de l'association cas d'urgence, c'est le 06 98 13 84 12. 06 98 13 84 12. Et le mail, c'est famille au pluriel at cas d'urgence.org. Famille au pluriel at cas d'urgence.org. K, la lettre K. Merci beaucoup, Christine Aron, et plein de bonnes choses pour vous. Et puis, nous, on se retrouve demain. Alors là, demain, ça va être super parce qu'on va se demander c'est quoi un bon baiser ? Et vous, comment aimez-vous être embrassé ? Confidence sur le bisou. Ce sera demain à 15h en direct avec vous, bien sûr, sur RTL. N'hésitez pas, vous savez que cette émission ne peut pas se faire sans vous. Donc, on vous attend tous les jours sur les réseaux sociaux, au 3210, par mail, sur Facebook, sur Twitter et sur le dos de notre pigeon voyageur. Tout de suite, voici Laurent Ruquier, les grosses têtes. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre fidélité. Prenez soin de vous et à demain.
Vous écoutez RTL.